Virtual Africa. New generation. Sur Afrique virtuelle, je m'appelle Yvan Tina et aujourd'hui je suis en compagnie d'Olivia Maëlle Brawler. Bonjour Olivia Maëlle.
Bonjour Yvan.
Est-ce que c'est possible de vous présenter en quelques mots s'il vous plaît?
Oui, bien sûr. Alors je suis donc Olivia Maëlle Brawler, je suis la directrice de la Maëlle Galerie. La galerie existe depuis à peu près 6 ans. Avant ça, j'ai eu un parcours issu des Beaux-Arts où j'ai fait donc un cursus DNAP, DNSEP en Martinique. Et puis ensuite, je me suis intéressée à l'envers finalement de ce monde artistique en parlant du marché de l'art. Et donc, j'ai fait à l'EAC Paris un management en marché de l'art. Et donc, à l'issue de ces deux cursus complètement complémentaires et antagonistes, j'ai donc ouvert la Maëlle Galerie à Paris. Mmh.
Comment est-ce que vous en êtes venu à l'art, plus précisément au commissariat d'exposition et à l'ouverture de votre propre galerie?
Je crois que je suis née un petit peu dans un bassin artistique, avec comme historique un père artiste qui a quand même un parcours relativement important, à la fois dans la Caraïbe et au niveau national, voire international. Et donc, j'ai baigné dans ce monde-là. Quand d'autres de mon âge faisaient du coloriage, moi, je me baladais dans les ateliers et dans une maison couverte d'œuvres de la tête aux pieds. Donc, j'ai toujours été dans ce milieu-là, à la fois cloisonné et décloisonné, c'est-à-dire que je voyais les choses par mon propre prisme, sans jamais avoir le père qui influence ni les regards, ni les rencontres, ni le choc artistique non plus, mais qui entretient d'une certaine façon, avec la distance, mais avec une forme de présence suffisamment importante pour que j'aie envie de me confronter à ce milieu de l'art. C'est assez intéressant parce que en réalité, je n'ai jamais voulu faire de l'art mon métier et même le pratiquer. Et c'est ma mère qui a tout fait finalement pour que je continue dans cette branche-là. C'est plutôt un rêve dans les sciences et dans les sciences physiques d'ailleurs. Et puis une crainte énorme de vivre finalement dans l'ombre d'un père. À un moment donné, elle me secoue en me disant, écoute, c'est ta destinée et tu dois l'embrasser. Et c'est peut-être aussi, surtout grâce à elle, que finalement, j'ai décidé de continuer dans ce milieu-là, où je vais m'inscrire donc dans un lycée avec une spécialité art plastique, avec à la fois une option facultative obligatoire. Donc je me retrouve avec 10 heures par semaine d'art plastique, donc je fais un bac littéraire option art plastique, et puis je rentre tout naturellement après un concours à l'école d'art, et c'est par la suite que je développe finalement une première vie avec une carrière artistique. Et puis, la question du commissariat vient un peu après. C'est-à-dire qu'avant la question du commissariat, il y a d'abord la relation à la galerie, il y a la structure finalement qui fédère et qui collabore avec les artistes. Et comment je viens à cette idée d'ouvrir une galerie? En réalité, il y a deux moments très importants qui sont fondateurs pour moi. C'est une discussion que j'ai avec un de mes anciens enseignants en Martinique, et puis un colloque. Alors, le premier événement, c'est l'un des artistes qui est aussi enseignant et qui me dit, en sortant de mon diplôme de 5e année, il me dit, écoute, tu es contente, tu es diplômée, mais tu sais, on ne t'attend nulle part. Et cette phrase, elle a beaucoup résonné chez moi, à tel point que je la suis répétée maintes et maintes fois en me demandant ce qu'elle pouvait signifier à la fois pour moi et pour lui. Et puis, finalement, je vais dans un colloque qui a lieu dans une fondation d'art contemporain et où on parle des questions de marché des artistes de la Caraïbe et je me rends compte qu'il y a un vide total de professionnels, de structures qui encadrent finalement le milieu et qui permet un essor du marché. Et donc, c'est à ce moment-là que je décide de m'installer à Paris, de continuer mes études et donc de faire ce MBA en marché de l'art. Et la question de la galerie amène la question du commissariat, qui est donc d'organiser des expositions. Voilà comment j'arrive jusque-là.
D'accord. Juste pour rappel, vous avez donc grandi en Martinique et pourtant vous avez ouvert une galerie à Paris. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous implanter dans le quartier de Belleville à Paris?
Alors déjà, j'ai souhaité ouvrir une galerie à Paris et pas en Martinique parce que la question du marché est pour moi de l'ordre du prémisse en Martinique et ça demande un certain nombre de facteurs favorisant la naissance d'un marché qui pour moi sont encore trop faibles. Donc j'ai souhaité m'installer en France parce qu'effectivement, il y a pléthore de galeries en France et parce que, bien évidemment, la question du marché il est bien plus développée. Et je veux dire, c'est l'un des poumons forts du marché de l'art international. Donc, m'installer en France, c'était pour moi symbolique. La volonté de sortir de la Caraïbe que je perçois à la fois comme une forme d'ouverture, mais peut-être aussi comme une forme d'enfermement. Il y avait déjà pour moi une volonté de sortir de ce carcan Caraïbe et de porter la Caraïbe, mais d'en sortir. Il y avait déjà ça. Et puis en même temps, le quartier de Belleville me plaisait beaucoup parce que c'est un quartier sans fioritures où il y a de très jeunes galeries, des galeries qui ont moins de 20 ans, qui sont installées dans un lieu qui est encore un melting pot, même s'il y a cette gentrification qui est assez forte. Il y a une volonté de soutenir la scène émergente, l'art d'aujourd'hui, et j'en de façon non ostentatoire. Et j'aimais beaucoup cette idée-là, de défendre les choses dans une forme de simplicité, avec beaucoup de conviction et de sérieux. Et puis surtout un rayonnement international aussi, qui me paraissait très important. Et du coup, c'était plutôt un microcosme de galeries, hein. On n'est pas non plus extrêmement nombreux, on est une vingtaine. Le rayonnement est assez fort.
Au-delà de la géographie. Votre galerie formule le vœu de façonner, c'est écrit sur le site, une pensée archipélique. Alors, c'est pas sans rapport, j'imagine, avec la pensée et la philosophie d'auteurs et de poètes tels que Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau et d'autres encore que j'ignore. Alors, j'aimerais connaître quel poète, artiste et penseur des Caraïbes vous inspire et vous guider dans votre démarche et si vous pouvez peut-être un peu développer le cadre conceptuel et théorique de votre approche en fait.
Disons que je me suis d'abord appuyée sur Édouard Glissant dans cette volonté de présenter une forme d'archipel. Je pense à la Caraïbe comme un environnement éclaté, épars. Cette volonté pour moi de rendre des bouts, des morceaux, des parcelles, et d'en faire encore. Et l'idée de la galerie, elle est exactement la même. C'est de rassembler des artistes qui ont une forme d'hétéroclicité, des artistes qui sont très différents à la fois dans les esthétiques, dans les temporalités, dans les discours, mais qui parfois arrivent à créer des œuvres d'une seule voix. L'idée de faire à la fois une exposition avec des œuvres historiques ou des œuvres extrêmement contemporaines, des milieux qui sont plus de l'ordre du factuel, du formel, de la plasticité, avec des œuvres numériques. Il y avait comme ça pour moi quelque chose d'hyper intéressant de créer un tout avec des éléments complètement hétéroclites. Et c'est pour ça que je fais référence à Édouard Glissant avec cette pensée archipélique.
Ouais, vous faites, il y a beaucoup de références au tout monde, à la mondialité. Juste parce que vous voyagez beaucoup, en fait. J'aimerais comprendre, en fait, en rapport avec cette pensée-là du tout monde, quel espace géographique ou peut-être mental ou affectif recouvre les Caraïbes d'après vous? Quels sont les enjeux pour les artistes de la Caraïbe auxquels vous faites référence, en fait?
Quand j'ai pensé à représenter les artistes de la Caraïbe à la galerie, je les ai pensés d'une certaine façon. J'ai revu un peu l'idée de la géographie et de la carte du monde en plaçant la Caraïbe au centre. Un centre qui pouvait se laisser traverser par les autres pays, par les autres continents, mais qui pouvait aussi finalement projeter ce qu'ils sont vers les autres aussi, une forme d'échange. Et j'essaye toujours de garder en tête que la Caraïbe en soi, en tant que géographie, ne m'intéresse pas et c'est une question plutôt obsolète. En réalité, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que les idées circulent d'un espace. Comment est-ce que les hommes circulent? Comment est-ce que ça crée du sens? Comment ça véhicule des esthétiques, des idées, des concepts? Et quels sont ceux qui peuvent les uns, par rapport aux autres, rentrer en écho? Et c'est tout ce que j'essaye de faire. Ne jamais prendre la Caraïbe comme un point de départ, pour une exposition, avec une thématique, liée à l'espace, mais au contraire, mettre en relation des identités, des œuvres qui ont des choses à dire ensemble au-delà de la question de la géographie.
C'est très intéressant. Donc, parce que dans le descriptif de votre galerie, il y a justement cette volonté de s'inscrire dans l'espace. Et c'est intéressant que vous disiez maintenant que l'espace auquel vous pensez n'a pas nécessairement de lien avec la géographie. Est-ce que je me trompe en disant cela ou ça?
L'idée, c'est la circulation des idées d'un espace à l'autre, mais c'est pas un espace géographique, c'est plutôt un espace politique, un espace théorique, un espace de pensée, mais ce n'est jamais de la géographie.
Mais est-ce qu'on peut parler de cartographie du moins? Ou
Oui, on peut parler d'une forme de cartographie, mais pour moi, elle est toujours éclatée. J'aime l'idée de cet éclatement-là, du fragment, la dispersion. Pour moi, ce sont des mots assez importants. J'aime bien parler de tours de passe et de cache-cache. J'aime bien l'idée, par exemple, de présenter un artiste de la Guyane qui convoque la civilisation romaine, un artiste français qui rend hommage à la sculpture africaine. Vous voyez, j'aime bien qu'il y ait des va-et-vient et des choses qui se jouent de l'ordre de l'échapper. J'aime bien que l'artiste puisse échapper à la condition qu'on voudrait lui donner. Et j'aime bien l'idée que l'on arrive à présenter à la galerie quelque chose qui échappe aux autres. On a une idée très précise finalement de ce que pourrait être un artiste de la Caraïbe. Et j'aime bien pouvoir décontenancer et apporter aux gens un regard différent sur la création qu'ils pensent saisir. J'aime bien les espaces où on peut se dessaisir des idées.
D'accord. Je vous ai posé ces questions en rapport avec la géographie parce que je me suis intéressé évidemment aux artistes que vous représentez à votre galerie. Et
Oui.
j'ai juste, c'était une observation, je me suis rendu compte que il y avait pas mal d'artistes issus du monde sud-américain ou effectivement de la Caraïbe. Donc je me suis dit que ce qui faisait sens en fait dans ça, c'est tout à l'heure, vous faisiez référence à cette nouvelle circulation des savoirs, mais c'est plutôt que de penser le monde en opposition entre le nord et le sud, vous étiez plutôt dans un dialogue entre les suds, c'est-à-dire entre l'Amérique du Sud et peut-être l'Afrique, et dans un espace qui peut-être aussi recouvre les Caraïbes. Je ne sais pas si c'était fondé, mais en tout cas, j'ai trouvé dans un extrait de notes sur Jean-François Boclet, que vous représentez dans votre galerie, et qui, dans ses travaux récents, fait l'archéologie d'une géographie sud-sud. Il parle même, ou vous parlez d'un pharmacos postcolonial.
C'est pas totalement ça. Disons qu'effectivement, c'est plutôt le propos de Jean-François Boclet qui, effectivement, va d'œuvre en œuvre à la fois disséquer des rapports entre le Nord et le Sud. Maintenant, en ce qui nous concerne, en réalité, l'idée, c'est de partir de la Caraïbe, mais au sens large, et d'embrasser une Caraïbe qui soit plus large que la Caraïbe insulaire, mais qui puisse rejoindre le continent. La Caraïbe, c'est la Caraïbe insulaire et c'est que la Caraïbe continentale. C'est pour ça qu'on englobe la Colombie, qu'on englobe le Venezuela. Et pour nous, c'est important parce que ce sont des terres qui sont extrêmement fertiles et qui ont vu de très grands artistes modernes et contemporains. Et que cette radicalité-là, elle a apporté aussi à la Caraïbe. Et on oublie très souvent de la citer, mais il me semble que c'est important. Et c'est vrai qu'au sens large, à partir du moment où on convoque la Caraïbe continentale, on a eu envie de s'intéresser à l'Amérique latine tout entière. Et c'est dans ce sens-là qu'on revendique une géographie ouverte sur le reste du monde, mais elle ne s'écrit pas que dans le sud ou dans l'est sud. L'idée, ce serait plutôt d'avoir une vision qui soit internationale avec un regard portée qui soit intentionnelle sur la Caraïbe et l'Amérique latine. Mais ça ne concerne pas uniquement que ces espaces-là.
D'accord. Comment est-ce que vous vous situez du coup par rapport à la création issue du continent africain en particulier? Et je pense notamment à la pensée d'écrivains, philosophes africains tels que Achim Mbembe ou Felwine Sta, qui mettent en avant des concepts tels que l'afropolitanisme ou qui parlent même de radicalité utopique, d'afrotopie. Et comment est-ce que ces concepts-là d'afropolitanisme, de renouveau de l'imaginaire africain entrent-elles en dialogue avec la création que vous défendez?
Alors, c'est une question assez intéressante. En réalité, on a toujours tenté, comme je disais, d'échapper à certaines visions de ce que pouvait être un artiste issu de telle ou telle région du monde. Je pense qu'il y a eu des grandes expositions dans le monde qui ont véhiculé une idée, qui peut être une idée légèrement fausse ou fantasmée de ce que peut être une création contemporaine en Amérique latine, dans la Caraïbe ou en Afrique. Et c'est vrai que pour penser par exemple à la proposition que l'on a faite pour ACA en 2017, si je me souviens bien, on a eu un stand qui était radicalement différent de cette vision que l'on pouvait avoir de ce que c'est qu'un artiste africain, par exemple. Même si, à proprement parler, on ne représentait pas d'artistes africains, mais plutôt de la diaspora africaine, on a un parti pris qui est de montrer des œuvres qui, esthétiquement, n'ont plus de lien avec une forme d'identification géographique. Je vais dire ça comme ça. Des œuvres qui sont plutôt minimalistes, voire conceptuelles, ou plutôt radicales sur certains artistes, et qui dénotent finalement de tout ce qui est montré aujourd'hui dans les grandes expositions collectives. Mais c'est un parti pris aussi pour nous important que de dire qu'il y a effectivement ce regard qui peut être porté sur l'Afrique ou l'Amérique latine, la Caraïbe, mais qu'il existe aussi d'autres types de pratiques qui échappent à ces questions formelles et esthétiques et qu'on a envie de développer. Pour nous, c'est assez important de sortir à la fois du cliché et d'une forme aussi d'uniformisation des pratiques artistiques qui me semble assez dangereuse.
D'accord. Et quel regard est-ce que vous portez en général sur la diaspora africaine en tant que Martiniquaise, hein, quand vous parlez de continent, je viens juste de le remarquer. Pour quelqu'un comme moi qui suis né au Cameroun, j'aurais plutôt tendance à penser à l'Afrique. Et là, vous avez parlé de continent plusieurs fois et vous faites plutôt référence au continent sud-américain. Donc, quel est votre rapport du coup à la diaspora africaine et au continent africain?
Mais je crois que ça vient aussi peut-être d'une histoire personnelle, mais je crois que J'ai eu, pour avoir l'occasion de fouler le sol de l'Amérique latine, de me sentir chez moi à chaque fois. Et d'avoir ce sentiment finalement d'être plus proche de l'Amérique latine que de l'Afrique. Alors, ça peut être étrange à dire, mais j'ai eu en tout cas ce souvenir, cette sensation d'être plus chez moi à cet endroit-là. Non pas que je ne sois pas connectée avec l'Afrique, parce qu'en réalité, personnellement, je suis plutôt très connectée. Mais c'est vrai qu'artistiquement parlant, j'ai eu envie de plutôt développer les liens qu'il pouvait y avoir avec la Caraïbe et l'Amérique latine. Déjà parce que en termes de géographie et de terre, et même en termes de culture et d'histoire, on a aussi des choses à partager. Et c'est vrai que les artistes caribéens sont toujours comme une diaspora africaine, mais on ne met jamais en lien l'Amérique latine et la Caraïbe, en tout cas très rarement ou trop peu. Et naturellement, je me suis retournée vers l'Amérique latine pour des raisons qui me semblaient simples. Et puis aussi parce que j'ai été très touchée par une interview où Gabriel Garcia Marquez parlait du rapport au corps Caraïbe et comment est-ce finalement, un Caribéen, à partir du moment où il foulait n'importe quelle terre, à la fois insulaire, continentale, qui appartiennent à la Caraïbe, que son corps et sa tête se réajustaient et qu'il redevenait entier. Et j'ai été très émue de voir cette vidéo parce que cette sensation, je l'ai eue et je vous en ai parlé juste avant. J'ai eu cette sensation-là et je n'avais pas de mots à mettre dessus. Mais en écoutant Gabriel Garcia Marquez, j'ai compris effectivement la force du corps et de la terre. Et cette opération-là s'est opérée chez moi en Amérique latine plus qu'en Afrique. Voilà pourquoi j'ai plutôt écrit mon parcours comme ça.
Quel marché pour l'art caraïbéen?
Merci. Alors, je voudrais poursuivre notre discussion et avoir une question peut-être un peu plus dirigée ou axée vers la question du marché de l'art et des enjeux de représentation des artistes caribéens ou sud-américains. Parler souvent d'un contexte insulaire qui est défavorable. Quel est le statut actuel du marché de l'art contemporain? Et observez-vous un regain d'intérêt pour les artistes ou caribéens ou afrodescendants?
Alors, je vais dire que oui. Je pense que c'est important que je dise oui, sinon il faudrait que j'arrête totalement ce que je défends. En réalité, on a effectivement un intérêt assez particulier pour les institutions qui commencent de plus en plus à rentrer en contact avec nous pour savoir quels sont les intéressant à suivre ou ceux qui ne connaissent pas encore et qui seraient peut-être moins visibles en France. Donc il y a quelques artistes effectivement qui commencent à émerger ici et à avoir des parcours suffisamment remarquables pour se demander s'il n'y en aurait pas d'autres qui auraient été finalement oubliés ou ratés. Et du coup, on vient nous voir pour ça. Je crois qu'il y a aussi pas mal de collectionneurs privés qui évidemment sont curieux à la fois de par notre programmation et aussi sur les questions que l'on défend qui font qu'ils s'intéressent de plus en plus aux artistes de la Caraïbe et c'est notre objectif. C'est-à-dire que nous, on est aussi là pour ça, pour à la fois montrer, défendre, accompagner ces artistes et créer des ponts finalement entre les collectionneurs privés et publics et les artistes. Oui, on va dire que chaque année, on avance un peu plus sur ces questions-là. Après, on est sur un marché qui est émergent, qui est balbutiant, où les acteurs ne sont pas encore suffisamment nombreux, où il y a des manques qui font qu'on a parfois des manques de relais suffisants. Il y a quand même des témoins, des marqueurs positifs quant à l'évolution du marché. Mais on est sur des créations totales de marché. Donc, Et encore au début, mais c'est un travail qui est immense et qui devrait bien plus de galeries que ça.
On espère que vous en ouvrirez peut-être une autre dans le futur.
Oui, je peux aussi avoir quelques concurrents qui aimeraient bien faire la même chose, mais on peut imaginer que je puisse avoir aussi un deuxième espace, pourquoi pas.
Oui. Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples de scènes ou de lieux dans lesquels vous êtes présent? Je veux parler de festivals ou de grandes expositions comme ça, nationales ou internationales d'ailleurs.
Alors, en termes d'événements hors les murs, hors de la galerie, on participe à des foires. Donc, les foires, ce sont plutôt des événements purement marché. On
Oui.
va présenter des artistes dans le but de les faire connaître à un public de collectionneurs, d'institutions, de musées, de commissaires, d'expositions. Et tout ça va favoriser effectivement à la fois le marché, la visibilité, l'inscription dans les lieux d'exposition, etc., etc. Donc, on a pour habitude de faire des foires depuis on a commencé. La galerie avait 6 mois avec la première foire. On en a fait déjà une dizaine. Et on en a fait certaines en Espagne, d'autres au Mexique, aux États-Unis et en France également. Et l'idée, c'est qu'on participe à 2 ou 3 fois par an pour permettre de faire circuler les œuvres et d'aller chercher les collectionneurs hors de France.
Votre galerie a aussi une spécificité de promotion des œuvres, je veux dire. Elle est aussi en ligne et permet d'acheter des œuvres d'art directement sur votre site web.
De ce côté-là, la galerie, effectivement, sur le premier projet au tout début, dans les années 2012-2013, effectivement, on a développé cette structure en ligne et on a souhaité supprimer cette possibilité-là pour plein de raisons. Mais on a eu envie de travailler un petit peu avec nos confrères sur le même pied d'égalité et de rester dans une forme plus classique de structure. Voilà.
Ma question en entraînait une autre
Oui.
qui a plutôt à voir avec l'utilisation donc des technologies numériques.
Oui.
Et je voulais juste avoir votre analyse ou approche des pratiques numériques et les enjeux pour vous actuels de la curation du commissariat d'exposition, mais en ligne.
Disons que on s'intéresse à toutes les pratiques artistiques contemporaines, c'est-à-dire qu'effectivement, on aime bien qu'il y ait des rapports à l'histoire et à la temporalité, qu'on soit capable de montrer des artistes avant-gardistes ou pionniers, mais en même temps, on est capable aussi d'entendre toutes ces générations qui sont nées avec Internet et qui ont trouvé dans cet outil une façon de créer et de se jouer des classiques, des médiums classiques. Et pour nous, c'est important parce qu'on soutient à la fois la scène émergente, et c'est important pour nous, dans une forme de projection sur le futur, de ce que sera encore l'art contemporain de demain, de soutenir les pratiques contemporaines dans l'absolu. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à mélanger les temporalités dans les expositions et à s'intéresser bien évidemment à tout ce qui du poste internet ou du méta, simplement. Et je pense que la prochaine exposition que l'on va mener à la galerie va aussi présenter un artiste très intéressant qui utilise l'internet et qui, plus précisément, a le site du FBI et va créer toute une sorte de chaos dans le dossier numérique du FBI pour brouiller la piste de certains prisonniers. Donc c'est assez intéressant pour nous de développer toute une série d'expositions où le poste Internet a aussi sa place. Voilà.
Merci beaucoup. Je vous propose de poursuivre la discussion dans un deuxième épisode et d'en rester là pour ce premier.
Oui.
Je vous remercie, Olivia Maël Brelin.
C'est moi.
L'Afrique à l'envers.
Upside down Africa.